Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur et nous allons le faire premièrement en lisant la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 8. On va lire du verset 30. Juste au verset 47, mais le titre de mon message, où est-ce qu'on va puiser toutes ces choses, c'est le verset 44. Mais lisons à partir du verset 30. Jean 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Ils avaient la mémoire un peu oublieuse. Nous sommes les fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Ils ont complètement tout oublié. 34. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'y tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra des péchés? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Voilà, le verset, je vous l'ai dit, c'est le 44, lorsqu'il dit que Satan, il est le menteur et il est le père du mensonge. Comme je dis ce matin, on est en train d'étudier Satan. Notre adversaire, le diable. Et comme trois ou quatre personnes sont venues, ils m'ont dit, en parlant, ils m'ont dit qu'ils avaient peur de diable, de démons, de Satan, de Lucifer. On l'a vu la semaine dernière, que ce Lucifer, ce diable, cet adversaire, Dieu il a lancé sur lui 5 jugements. On les a vus la semaine dernière. Dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que si on étudie la parole de Dieu, si on regarde ce jugement que Dieu il a lancé sur Satan, et nous savons que lorsque Dieu dit quelque chose de la chose, il va se réaliser. On n'aurait pas peur de cet être. Il est puissant, oui, mais Dieu, il est plus que puissant. Il est tout puissant. Il est dans le monde, il dirige le monde, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur, il nous le dit, ne craignez rien, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin des jours, je combattrai pour vous, je serai avec vous. Voilà, il y a des chrétiens qui ont peur de ce diable. Mais ici, il nous est dit qu'il est le meurtrier depuis le commencement. On connaît l'histoire. Hein? C'est à cause de lui que Caïn il a tué Abel. Et c'est lui, il dit qu'il est menteur. Menteur, c'est une personne qui ment, qui a l'habitude de mentir. Un menteur qui a l'habitude de mentir. Et aussi, il dit qu'il est le père du mensonge. Le mensonge, définition, assertion, ciment, contraire à la vérité. Acte de mentir. Il y avait Céline qui a dit, c'est un grand poète, le mensonge, ses rêves pris sur les faits et seul amour des hommes. Le seul amour des hommes, les mensonges, ça nous convient bien. Et il nous est dit qu'il est le Père, et nous en tant que chrétiens, hein, dans la Bible, hein, les chrétiens, ils doivent être dans la vérité. On doit dire la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Mais le diable nous propose insidieusement d'autres choses que la vérité, d'autres voies néfastes et mortelles. Et mortelles. Jésus nous a révélé dans l'Écriture que le diable est menteur et père du mensonge. Mais Dieu, il désire nous faire vivre dans la vérité parce que tout est là. Nous avons la parole de Dieu et nous savons quelle est la vérité. Donc nous devons nous laisser diriger que par la vérité et pas par d'autres choses. Jésus a déclaré plusieurs choses à propos de cette vérité. J'en ai noté quelques-unes. Il dit, je vous ai dit la vérité dans chapitre 8, 40. Je vous ai dit la vérité. Vérité que j'ai entendue de mon Père. Et il dit aussi, je suis le chemin et la vérité. 14, 6. Et dans 17, 17, il dit, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est ça, est la vérité. Tout ce qui n'est pas de la parole est mensonge. Et tout ce qui est mensonge, il vient du père des mensonges, les diables. On l'a vu ce matin, quelques noms qu'on donne à Satan. Il nous a dit aussi, vous connaîtrez la vérité et elle, il vous rendra libre. Libre. Il nous a dit aussi, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si quelqu'un agit selon la vérité, il vient à la lumière. Hein, la sœur Esther, il a intitulé le programme de Noël, la lumière. Voilà, celui qui écoute la vérité, il vient à la lumière. Hein? Et il nous a dit aussi, et Paul, il nous a dit, ayez vos reins la ceinture de la vérité. C'est-à-dire la parole, il doit régler notre propre vie. Professons la vérité dans l'amour. Il nous a dit dans Éphésiens 4, 21. Hein? Et Éphésiens 4, 25 nous dit que les chrétiens parlent selon la vérité. Voilà, Satan est le père du mensonge, mais nous, nous sommes dans la vérité parce que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Et ce matin, j'aimerais vous discerner quelques mensonges que les diables, que Satan, il a parsemés dans ce monde et dans lequel ce monde, il est en train de se vautrer. Mais nous, nous sommes dans la vérité et nous devons nous garder de professer ces choses-là. Le premier mensonge, c'est faire croire que le bonheur est dans le péché. Regardez le monde aujourd'hui. Le monde, il ne fait que ça. Il croit, il professe le mal en croyant qu'il y a le bonheur. Par exemple, le voleur, il va voler, comme ça, il ne va pas travailler. Il aura une belle vie. Il croit trouver le bonheur dans le vol, dans le péché. Et il y a aussi la grande majorité des hommes, ils cherchent le bonheur, mais ils cherchent le bonheur dans les choses qui ne doivent pas les chercher. Où le bonheur, il n'y est pas, dans la colère, dans l'adultère, dans le faire souffrir les gens, dans l'égoïsme. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, et dernièrement, il y a eu une querelle entre une famille qui disait, oui, il ne faut pas rembourser l'avortement. Et l'autre disait, non, non, il faut les rembourser. En Amérique, il y a Trump qui dit, c'est interdit l'avortement. Les gens, ils crient contre ces choses-là. Mais vous savez que Dieu, il bannit, il a en horreur l'avortement. J'ai entendu des chrétiens qui disent, mais c'est quoi ce président qui veut abolir l'avortement? C'est pas bien. Es-tu chrétien ou pas? Dieu, il a en horreur ça. On ne doit pas avorter. Parce que chaque enfant qui vient, c'est un don de Dieu. Qu'il vienne avec une maladie, ou autre chose, on doit le laisser venir. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Et voilà, il y a des gens qui croient que le bonheur, il est dans le péché. Ça nous arrive en tant que chrétiens, d'envier tous ceux qui vivent bien. Et pourtant, on sait qu'ils font des choses mauvaises. Asaph, il était comme ça, dans le psaume 73. Il voyait toutes les bonnes choses que le mauvais il recevait. Et lui, mais à un certain moment, il a eu la paix de Dieu, car Dieu il lui a dit, « Ne t'inquiète pas, ces gens-là, ils recevront leur récompense. Toi, demeure dans la vérité. Comporte-toi comme tu dois te comporter. Le péché, il ne rend pas heureux. » Peut-être c'est momentané sur les moments, mais tout de suite après, tu es dans le désespoir. Je voulais raconter mon histoire. Un jour, j'ai vu un beau tapis dans un grand magasin. Mais c'était beau. Hein? C'était juste dehors. Je regardais, je dis, mais c'est beau ça chez moi, ce serait bien. Je regardais tout autour de moi, il n'y avait personne, j'ai roulé le tapis, je l'ai pris et je l'ai mis dans la voiture. Et il était déjà dedans. Ah, je me dis, j'ai un bon tapis, ma femme elle va être contente. Le bonheur. Je rentre dans la voiture et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de voler. C'est pas bien. Eh oui, mais ce tapis me plaît. Mais tu as volé. C'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pris le tapis, j'ai été au même endroit, je l'ai ouvert et je l'ai laissé là. J'y croyais que ce tapis m'apporterait le bonheur, le bien-être. Mais non, le péché, il n'amène. Et c'est ça, le mensonge du diable. Mensonge du diable. Tous ces jeunes, tous ces gens qui s'amassent dans pour écouter des chanteurs ou pour boire ou pour faire la java, comme on dit, ils sont là en train de s'amuser et ils font des choses qu'il ne faut pas. Ils croient que le bonheur est là. Et ça, c'est un mensonge de notre adversaire, le diable. Mais le bonheur, il n'est pas dans le péché. Mais le bonheur, il est dans la vérité. C'est ça que le Seigneur, il nous dit. Hein? La Bible, il nous dit, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. C'est ce qu'il nous dit. À Caïn, le Seigneur, il a dit, le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Lorsque le Seigneur, il n'a pas agréé son offrande. Il a dit, le péché, il est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Est-ce qu'il a dominé sur le péché? Non, il a tué son frère. Il croyait que, en tuant son frère, les choses se seraient arrangées, comme on dit. Non, il a été errant. Hein? Voilà pourquoi il est appelé les Juifs errants. Hein? Il croyait que le bonheur, il serait là s'il enlève son frère. Non. Il a erré toute sa vie. Il n'a pas dominé sur les péchés. La Bible nous dit encore, détourne-toi du mal et fais le bien. Et d'ailleurs, plus loin, il nous dit, si quelqu'un il ne fait pas le bien, mais il fait le mal, il est jugé. Si toi, tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu es condamnable. Parce qu'on est dans la vérité et on doit agir dans la vérité. Comme Jésus, il a agi dans la vérité. Mais ça, c'est encore un mensonge de Satan. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas être heureux. Non, il y a des limites. Dans la Bible, il nous est dit, ne déplace pas les bornes qui ont été placées. Car chaque fois qu'on dépasse une borne, on est condamnable. On est dans la vérité. Et il dit, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, dans Ésaïe. Quel est l'homme qui désire le bonheur? Vous voulez le bonheur? Qu'il s'éloigne du mal et il fasse le bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont tuer Jésus? Bon, il n'en voulait pas autant que roi, mais parce qu'il faisait les biens au lieu de faire les mal. Et faire les biens au lieu du mal, c'est contre la société. C'est contre la société. Et ça, c'est encore un mensonge du diable. Un deuxième mensonge du diable répandu dans ce monde, c'est que Dieu veut nous priver de la liberté, de la joie de vivre. Un jeune, je ne vais pas me convertir maintenant, j'ai toute une vie à vivre. Hein. Si j'accepte le Seigneur Jésus, je suis privé de tant de choses, je ne peux pas aller où je veux, je ne peux pas lire ce que je veux, je ne peux pas regarder ce que je veux. On m'enlève la liberté, mais Dieu il n'a jamais voulu ça et il ne désire pas, parce que nous sommes des esclaves. Du malin. Si on a les péchés dans notre cœur, on est des esclaves. Mais il nous a dit, si le Fils, il vous affranchit, vous serez réellement libres. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis qu'on a accepté le Seigneur, c'est là que je ne suis plus esclave, mais je suis libre. Pourquoi? Parce que je peux dire non au péché. Je ne me prive de rien avec Jésus-Christ. Je ne me prive de rien. Au contraire, je suis plus fort que ceux qui sont esclaves. Je ne peux rien. Si je ne vais pas voir un film, si je ne participe pas à une fête, à une java, je ne peux rien. Ils n'ont rien plus que moi, ces gens qui sont là. Mais moi, je n'y vais pas parce que je sais qu'en y allant, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la vérité dans laquelle je me suis confié. Mais Satan, il veut nous faire croire cela. C'est la foi qui nous garde. Imaginez-vous, vous connaissez tous Bernard-Henri Lévy. Il dit, nous n'avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus. Et il n'est pas chrétien. Hein? Bernard Lévy, il n'est pas chrétien. C'est depuis que nous ne croyons pas qu'on n'est plus libre. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a délivrés. Et c'est avec Christ que nous pouvons agir, que nous pouvons nous délivrer de toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui nous donne cette puissance, ce pouvoir de dire non au péché. Il y a un troisième mensonge qui nous dit qu'il nous laisse voir Dieu comme un juge, comme un policier, qui nous poursuit constamment. Et ça, c'est un peu la faute aux parents et au monde. Hein. Et en cette période-là de Noël, vous savez qu'il y a le Père Noël. Le Père Noël, lorsqu'il arrive, il parle à l'enfant. Est-ce que tu as un cadeau pour moi? Est-ce que tu as été sage? Si on a été sage, on reçoit un cadeau. Mais qui est sage? Personne. Personne. On a appris, attention, si tu fais quelque chose, le bon Dieu, il va te punir. On a toujours présenté Dieu comme quelqu'un qui est là pour te châtier, pour te faire du mal, mais c'est exactement le contraire de ce que Dieu désire. Et ça, il l'a fait avec Adam et Ève depuis les commencements. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu, il veut vous priver. Dieu, il veut vous enlever ce droit à la connaissance. Il veut vous l'enlever. Il veut vous faire du mal. C'est ça que... Et les gens, ils regardent ces choses-là. Martin Luther, vous connaissez tous, c'est le réformateur. Il avait la crainte de Dieu de ne pouvoir faire les choses que Dieu il agrée. Parce qu'il a toujours vécu parmi ses croyances de l'Église catholique romaine. Hein? Donc voilà, il faut faire quelque chose. Et lui, il avait la crainte jusqu'au jour où il s'est mis à étudier l'Épître aux Romains. Et c'est là qu'il a découvert que c'est Jésus qui nous justifie. Qu'on a besoin de rien faire d'autre que de croire en Jésus. C'est lui qui nous justifie. Et nous ne devons avoir aucune crainte. Dieu, il n'est pas là. C'est pas le Père Fouettard. Dieu, il est là pour nous donner ce que nous méritons et ce que nous ne méritons pas, pour nous mettre sur le droit chemin. Dieu, il nous met dans la souffrance peut-être, mais c'est pour nous faire du bien. Tandis que l'adversaire, il dit, ne te tourne pas vers Dieu, il te veut du mal, et chaque fois que tu fais quelque chose, voilà. Non, lui, c'est pour te faire du mal. Notre adversaire. Ça, c'est encore un mensonge. Un autre mensonge, c'est que les diables n'existent pas. Voilà, ils n'existent pas, les diables. Et d'autres enseignent que le diable, il est enchaîné. Ben, quelqu'un qui est enchaîné, il ne peut pas agir, n'est-ce pas? Mais en regardant le monde, croyez-vous que le mal ne soit pas là? C'est que le diable, il n'est pas enchaîné. Le diable est libre. Mais déjà, ils disent, il n'existe pas. Faites ce que vous voulez. Non, il faut faire attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le diable existe, il est là, il a les jours comptés. Et le désir du diable, c'est de nous casser. De nous éloigner des dieux. Et où est-ce qu'il va travailler les diables? Les diables travaillent parmi les chrétiens. Pas dehors. Dehors, il n'y a pas beaucoup de travail. Hein? Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire non à Satan. Et qu'ils peuvent sortir vainqueurs. Mais dehors, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas besoin de beaucoup de tentations. Hein? Ça suffit de lui faire miroiter devant les yeux quelque chose et ils y tombent. Non, le diable existe. Et nous devons faire attention. Nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une bataille, nous sommes des combattants, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et si, nous sommes, et si le Seigneur nous a donné une armure, hein, c'est parce que nous sommes dans une bataille. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Le diable, il est bien là, il est bien là. Et il agit constamment. Un autre mensonge qu'on le voit aujourd'hui énormément. Les gens, c'est l'intercession des saints. D'ailleurs, ils se sont étonnés dimanche lorsqu'ils chantaient. Mais vous croyez quoi? Ben, je le dis, on croit en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a la différence entre vous et l'Église catholique romaine? Nous, on ne pratique pas le baptême. On croit dans le même Jésus, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés, qui nous a donné la vie éternelle. Mais nous ne croyons pas dans le pape, dans les saints, dans la Vierge, et nous ne les prions pas. Ah, c'est pas bien ça. Ah ben, c'est pas bien. Nous, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Sinon, je lui dis, on croit exactement la même chose, sauf que nous ne faisons pas ces choses-là. Et il y a ce mensonge du diable qu'il y a l'intercession des saints. C'est-à-dire qu'il faut prier les saints. Qui sont-ils les saints? La parole de Dieu, il nous dit que les saints, ils sont tous ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et qui sont vivants. Aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philadelphie. Pourquoi nous sommes saints? Parce que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Et ce mensonge du diable, c'est de faire croire que les saints, ce n'est pas les vivants, mais c'est les morts. C'est-à-dire, c'est les gens que les hommes, ils ont déclarés saints. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens partout qui prient les saints. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. On doit prier Dieu, pas les saints. Il y a, vous savez, en Italie, en Belgique, en Espagne, il y a un saint pour toutes les choses dont on a besoin. Je vais vous en lire quelques-uns. Il y a Sainte Anne pour avoir des enfants. Voilà. C'est Dieu qui donne les enfants, mais il faut prier Sainte Anne. Il y a aussi Sainte Marie d'Ognès pour une heureuse délivrance. Mais qui c'est qui nous délivre? Si les fils vous affranchis, vous serez réellement. Pourquoi je dois me tourner vers cette sainte? Et il continue. Saint Cloud, hein, pour guérir les clous et les furoncles. Sainte Claire, les maux des yeux. Saint Blaise, les ampoules. Saint Lambert, la paralysie. Saint Apolline, le mot de dents. Voilà. Hein? Saint Job, les ulcères. Voilà, Job. Hein? Alors, Saint Job. Hein? Saint Laurent, les brûlures. Saint Erasme, le mot de ventre. Saint Gomère, les hernies. Sainte Rita, les cas désespérés. Saint Antoine fait retrouver les objets perdus et prospérer les affaires. Notre-Dame du Bois aide à passer les examens. Sainte Loi protège les métallurgiques. Sainte Barbe, les mineurs. Saint Joseph. Voilà. Mais vers qui devons-nous nous tourner? vers Dieu. Comme le disait quelqu'un, pourquoi prier les acolytes lorsqu'on a Dieu? Ah, quelqu'un il dit, oui, on prie aussi la Vierge, bien sûr. Alors, il faut Dieu, Jésus est très occupé, il ne peut pas s'occuper de tout le monde, alors on prie la Vierge, c'est sa mère. Et alors, elle, il va voir Jésus. Elle ne peut pas refuser sa mère, Jésus. Il lui demande quelque chose. Voilà. Donc, surtout en Italie, hein, la mamma. Voilà. On ne refuse rien à la mamma, à la mère. Voilà pourquoi on prie la Vierge. Et ensuite, il y a ce saint. On le prie, mais ces saints, ils sont morts. Et jamais dans la Bible, on voit quelqu'un prier un saint. Au mieux, on le voit une fois, le riche qui est dans le séjour des morts, il prie Saint Abraham, qu'il est dans le paradis, n'est-ce pas? Dans le sein d'Abraham. Et le Père Abraham, il a dit, ah, Père Abraham, envoie Lazare qui trempe son doigt et qu'il m'amène un peu d'eau. Et il a dit, mon fils, entre moi et vous, il y a un grand abîme. Ou sinon, Père Abraham, envoie quelqu'un pour qu'il puisse avertir mes frères et sœurs afin qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et Abraham, il a dit, mais mon fils, ils ont la loi et les prophètes. Qu'ils écoutent la loi et les prophètes. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des médiums. Il y a des liseurs de mains, liseuses de mains, il y a tous ces gens-là qu'ils croient pouvoir mettre en relation les morts. Mais il n'y a eu jamais un mort qui est revenu. Oui, il y a eu Samuel, parce que Saül, il voulait demander à Samuel, pourquoi? Parce que Dieu, il l'a rejeté. Et alors, il a dit, voilà, je me tourne vers Samuel. Hein, on ne sait jamais. Mais Samuel, il lui a paru et il a dit, « Demain, tu seras avec moi, ici. » Le jugement de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Dieu, il lui a dit, « Non. » Alors, il a dit, « Bon, Samuel, j'appelle Samuel. » Et il a dit, « Demain, tu seras avec moi. » Et ça, c'est toutes des mensonges du diable. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils éloignent les gens de la vérité. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit le dimanche matin, surtout dimanche dernier, je voulais vous prêcher le même message que j'ai donné, la même étude biblique que j'ai donnée dimanche dernier. Pour que nous sachions qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir peur de rien. Vous m'écoutez bien, des riens. Des riens. Pourquoi? Parce que cet ennemi, il est vaincu. Il a déjà reçu les jugements de Dieu. Un jour, il va être enchaîné, il va être dans l'enfer, cet endroit où il est réservé que pour lui. Et contre nous, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Voilà pourquoi c'est très important qu'en tant que chrétiens, nous sachions ces choses-là. Pour avancer tous ensemble et propager cette bonne nouvelle. Mais sachons que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. En tant que chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas en guerre. Mais nous, oui, parce que nous sommes du côté de Dieu. Et Satan, c'est contre Dieu. Donc, il est contre nous et il essaie de nous faire chuter. Peut-être qu'il est même là, ici, dans l'église, parmi nous. Et il souffle à l'oreille à quelqu'un, « Mais ne l'écoute pas. Qu'est-ce que je vais faire en rentrant chez moi? Je vais regarder la télé, je vais lire ça et ça. » Et il n'écoute pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là que Satan fait. Et il fera tout pour nous éloigner du Seigneur. Voilà mon message ce matin. Pour que nous ayons de la foi à ce que nous croyons. Comme il disait Paul, j'ai sais en qui j'ai cru. Donc, rien ne peut m'arriver. Mais Satan est là. Je vais vous lire quelque chose qui pourra nous faire réfléchir de cet adversaire, qu'il est là. Peut-être beaucoup de gens ils ne tiennent pas compte, hein, mais il est là. Et il essaie de tout faire pour nous éloigner de la vérité. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber. Encore une fois, c'est ce que je vous lis, ce n'est pas biblique. Mais c'est une histoire parlante. Voilà. Le titre, c'est « Convention satanique ». C'est-à-dire que Satan, il a réuni tous les diables à une convention. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Voici les minutes d'une convocation de Satan pour une conférence mondiale. » Il a réuni tous ses anges. Celle-ci a eu réellement lieu. Lisons attentivement et soyons vigilants afin de ne pas nous laisser prendre. C'est-à-dire qu'il a eu lieu parce que les anges et Satan, ils sont là que pour une chose, pour nous faire chuter. Dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, Satan, voilà ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas empêcher cela. S'ils réussissent dans cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, ange déchu. Distrayez-les et empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela ? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, emprunter, c'est-à-dire les choses du monde. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6, 7 jours par semaine, 12 heures par jour pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent, la convoitise. Travailler, avoir l'argent et acheter. Et dans le temps, on ne pense pas à cette relation avec le Seigneur. Stimuler de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix de l'esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes ou les CD quand ils sont au volant et les télévisions, les vidéos, les CD et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Si tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne pense pas. On pense à autre chose. Couvrez les tables basses des magazines et journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes qui les attirent quand ils conduisent. Pas lire la Bible, mettez des magazines sur leur table. Et beaucoup de panneaux publicitaires, c'est un peu ce qu'on voit, n'est-ce pas, lorsqu'on prend la voiture, et qu'est-ce qu'on voit? Des panneaux publicitaires qui sont pas bons, n'est-ce pas? Mais encore une fois, on a les yeux, on voit. Et ça, c'est pas péché. Péché, c'est arrêter nos yeux dessus. On voit une femme nue, ou un homme nu, on le voit parce qu'on a les yeux. Mais si on fait ça, Là, oui. Là, oui. Hein? Inonder les boîtes aux lettres des courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes de lettres promotionnelles, offrant des produits gratuits et des services publicitaires, offrant des faux espoirs. Voilà. Tout ça pour nous occuper. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. Et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes et cela brisera très vite les familles. Eh oui, des beaux mannequins, de belles filles. Dans leur moment de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ces moments complètement épuisés, pas du tout en paix et pas préparés pour la semaine à venir. Voilà. Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu. Allez-y! Laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'il n'est pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force en faisant les sacrifices de leur santé et de leur famille pour la bonne cause et cela va marcher. Cela va marcher. Cela va marcher. Voilà, à la fin, il dit, c'est vraiment une bonne convention. Alors les anges déchus sont partis très vite de la convention avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout de plus en plus occupés, de plus en plus pressés en allant ça et là. Et si nous sommes occupés à faire autre chose que ce que Dieu il nous dit, les choses que Dieu nous dit, ils ne seront pas faites. Que le Seigneur il nous aide. Car nous avons, encore une fois, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre. Et comme il nous est dit, pas contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des puissances. Et si on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous ne le serons jamais vainqueurs. Mais si on a Jésus dans notre cœur, nous sommes et nous serons plus que vainqueurs. Amen. Amen.